Le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Aujourd'hui, on vous propose de rencontrer Louise et sa maman, Céline Jumelle. Louise nous explique son quotidien avec un TDAH. On développe ensuite un peu plus la question avec Céline, qui est aussi la présidente de l'association Les Ailes du TDAH. Cette association arageoise vise à informer le public sur le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais aussi à soutenir les familles au quotidien et favoriser l'inclusion des enfants TDAH au sein de leur établissement. Avant toute chose, quelques points de vocabulaire.
Un trouble 10, donc dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie ou la dysorthographie. Ce sont des troubles cognitifs spécifiques. Ils affectent une ou plusieurs fonctions cognitives telles que la perception, l'attention, la mémoire ou le langage. Ce sont des troubles du neurodéveloppement. Ils se caractérisent par une ou plusieurs difficultés dans le développement et l'apprentissage.
Le dossier MDPH, c'est un dossier déposé auprès de la Maison départementale pour les personnes handicapées. Il permet la reconnaissance du statut d'enfant handicapé et la mise en place d'aménagements scolaires. Il permet aussi de percevoir l'allocation enfant handicapé pour pouvoir financer des séances de rééducation qui sont normalement à la charge des parents.
Le GEVASCO, donc le terme GEVASCO, est l'acronyme de Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation. C'est un document essentiel qui rassemble les informations importantes concernant un élève en situation de handicap. Son but est de faciliter l'évaluation des besoins spécifiques de l'élève en vue de l'élaboration de son projet personnalisé de scolarisation, PPS. C'est un outil qui permet de partager des observations, d'échanger entre différents acteurs et de transmettre des données clés sur le parcours scolaire de l'élève.
Un ou une AESH, ce sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap. On vous laisse maintenant retrouver notre rencontre avec Louise et sa maman Céline.
Moi je m'appelle Louise, j'ai 12 ans, je suis en 5e au collège Saint-Vincent à Arras.
Je crois que tu as un TDAH.
Oui.
Est-ce que tu pourrais m'expliquer peut-être ce que c'est déjà le TDAH ?
Le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble du neurodéveloppement qui est souvent accompagné par des dys, la dysgraphie, la dysphasie, la dyspraxie, etc.
Et alors du coup, tu as des dys aussi, toi ?
Oui. Moi, je suis dysgraphique et dyspraxique.
Est-ce que tu te souviens de comment tu as été diagnostiquée ? Est-ce que tu peux nous raconter ?
J'ai été diagnostiquée par un neuropédiatre.
Alors comment ça s'est passé un petit peu? Tu peux nous expliquer c'est quoi? C'est un test? C'est des jeux? Ça se passe
non,
comment?
Non, c'est d'abord faut faire plusieurs bilans avec une psychomotricienne, une neuropsychologue et une ergothérapeute. Et après ces bilans, faut les amener au neuropédiatre. Et lui, il va avec les bilans, il va essayer de diagnostiquer ce qu'on a et voilà.
Il est resté caché combien de temps ce TDAH? Est-ce que tu l'as découvert quand t'étais toute petite?
Non, à 8 ans.
Alors du coup, il s'est caché longtemps en fait.
Ouais.
T'as eu le temps de faire beaucoup de choses avant de le savoir.
Oui.
Et du coup, à l'école, est-ce que tu as des outils pour t'aider?
Oui, on appelle ça des aménagements. Moi, j'ai une dysgraphie, j'ai du mal à écrire et c'est pour ça que j'ai un ordinateur pour écrire. Et j'ai aussi une aide humaine, une AESH, pour la reformulation des consignes et pour écrire à ma place aussi.
Je pense qu'il n'y a pas qu'à l'école, des fois, tu as des anecdotes aussi à nous raconter. Il y a des trucs au quotidien qui changent avec ton TDAH?
Oui, moi je fais de la musique, je fais de la clarinette, du solfège. Donc j'ai aussi des difficultés de concentration là-bas aussi.
Pour t'aider à te concentrer, pour jouer de la musique, t'as des petites astuces ou pas?
Non, pas vraiment. J'essaye par moi-même de rester concentrée.
Est-ce que t'as une petite anecdote à nous raconter à la maison peut-être? Il paraît que tu restes vraiment concentré sur les écrans, c'est vrai ça?
Oui.
T'en oublies même d'aller manger à table. Enfin, je crois, hein, c'est maman qui racontait cette anecdote-là. Aujourd'hui, t'es en studio et je vois que t'as une minerve autour du cou. Comment
oui.
Ça se fait?
Cette nuit, je me suis fait un torticolis.
Et ça, c'est lié à ton trouble TDAH, du coup?
Oui, c'est avec le stress.
Ah oui, donc tes muscles, ils se contractent
ouais,
avec le stress? Donc toi, ça va, t'as pas d'autres
problèmes de santé, par exemple, t'as pas de maux de ventre qui
non.
te rendent malade et
moi,
tout ça.
Moi, j'ai souvent des mal de dos, bloqué du cou.
Alors du coup, en plus, je pense que ça t'embête, tu peux plus faire de sport quand c'est comme ça.
Non, je peux pas.
Bon, ce qui est bien déjà, c'est que tu loupes pas l'école, du coup.
Ouais.
T'as une petite sœur aussi ?
Oui, j'ai une petite sœur qui est aussi TDAH. Qui...
Et alors, comment ça se passe avec ta sœur, du coup ?
On se dispute souvent.
Vous disputez souvent ? Ouais, mais ça, c'est toutes les sœurs, quand même.
Oui, souvent, quoi.
Ah. Est-ce qu'elle a les mêmes soucis que toi ? Est-ce qu'elle aussi, le stress, ça lui cause des lumbagos ?
Non, elle, c'est plus les migraines.
Céline, il y avait une petite conférence à Baudimont mardi soir.
Oui, tout à fait. C'était une conférence sur les troubles 10 et sur le TDAH, qui était organisée par l'association Les Ailes du TDAH et l'APL de l'ensemble Baudimont-Saint-Charles.
Dans cette conférence, on parlait aussi de d'où venait ce trouble TDAH.
Oui.
Du coup, en fait, il y a plusieurs façons de le développer, quoi. C'est pas forcément héréditaire, c'est pas...
Alors
c'est lié à plein de causes en fait.
Dans 75 à 85% des cas, c'est tout de même héréditaire. Donc on dit qu'il faut déjà avoir une vulnérabilité génétique. C'est un terrain avec la probabilité de développer le TDAH. Et ensuite vient s'ajouter différents facteurs, des facteurs environnementaux, des facteurs anténataux ou des facteurs familiaux. Alors les plus classiques, hein, ça va être... L'anoxie au niveau d'un bébé qui vient juste de naître, hein, privation d'oxygène pendant quelques secondes. On va aussi retrouver ça chez les mamans avec un alcoolisme materno-fœtal. Ou alors chez les couples où on retrouve de la violence conjugale.
Et alors du coup, je te pose la question parce que du coup, je pense que je peux le dire, tu es la maman de Louise.
Oui, tout à fait.
Comment vous, en tant que parent, vous vous êtes posé des questions, peut-être ? Comment vous avez entamé le parcours de diagnostic ? C'est des professeurs qui vous ont alerté ? Ça s'est passé comment ?
Alors, pour Louise, pas du tout. En fait, Louise était une enfant. Quand elle avait 16 mois, elle jouait toute seule dans son parc pendant 5 à 6 heures avec le même jouet. Voilà. Et puis vers 4 ans, elle a commencé à faire des crises de nerfs. Il fallait la contenir. Clairement, elle se roulait par terre. Donc là, j'ai commencé à consulter des psychologues. Ça a apaisé les choses jusqu'à l'année de CP où effectivement la professeure de CP disait que Louise était en dehors du rythme scolaire de la classe, donc extrêmement lente, et elle craignait pour Louise des difficultés au niveau du CE1. Et puis j'avais les antécédents en fait du papa de Louise, hein, qui était déjà lui à l'époque très lunaire. Voilà, donc ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai commencé à m'informer sur le net, tout simplement, et puis ensuite j'ai embrayé avec les bilans, comme Louise l'expliquait, neuropsychologue, avec le bilan attentionnel, le bilan WINSC-5, pour vérifier s'il n'y a pas un problème au niveau de l'intelligence, et puis un bilan ergo et un bilan psychomote, et ensuite je suis partie en Belgique pour faire diagnostiquer Louise chez un neuropédiatre.
C'est des bilans qui sont assez longs.
Alors, c'est des bilans qui sont assez longs, qui se font sur plusieurs séances. Le bilan neuropsy, on est sur 3 séances. Le bilan ergo aussi, et le bilan psychomote sur 2 séances. Alors, au-delà d'être long, c'est relativement coûteux. Quand je dis à l'époque, donc il y a 4 ans, j'en ai eu pour Louise pour 1 200 €. Voilà, pour les bilans. Et la consultation chez le neuropédiatre en Belgique est à hauteur de 110 €, pris en charge par la Sécurité sociale, seulement si on a la carte vitale européenne et si on renvoie la facture avec le CERFA de soins à l'étranger.
Alors on en a déjà parlé un petit peu parce qu'on s'est déjà rencontrés précédemment par rapport à l'association, justement les
ADTDH.
Mais après il y a toute la procédure de mise en place d'aide à l'école, passer par un dossier MDPH, un PAP et tout ça.
Oui, tout à fait. Donc la procédure, si on simplifie les choses, hein, c'est on sollicite une équipe éducative. En première demande, on sollicite une équipe éducative au travers de la direction ou au travers du professeur. Il y a un GEVASCO qui est complété et qui est joint donc au dossier MDPH dans lequel on retrouve donc le certificat médical rempli soit par le médecin généraliste, soit par le neuropédiatre ou pédopsychiatre. Et puis on a les premiers aménagements. Et ensuite, tous les ans, on refait ce qu'on appelle une équipe éducative, une ESS. Et là, l'enseignante référente devient, on va dire, le chef de projet, le chef d'orchestre sur la partie aménagement.
Alors tu l'as dit, une fois que tu as commencé à avoir des questionnements, à rechercher un petit peu ce qui pouvait se passer pour Louise, tu parlais de son papa.
Oui.
Il a été diagnostiqué lui aussi après, alors, Louise ?
Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Mais on a beaucoup d'adultes qui ne se font pas diagnostiquer ou qui sont tout simplement dans une forme de déni.
On parle, il y a peut-être un retard aussi du côté des diagnostics.
Alors les diagnostics adultes en 2025 restent très compliqués. Il faut savoir qu'au-delà de 18 ans, il faut passer par un psychiatre. Les bilans attentionnels sont compliqués. Hein. Déjà pour les enfants, on a 2 à 3 mois d'attente chez le neuropsychologue. Et trouver un psychiatre qui diagnostique le TDAH, ça court pas les rues. Clairement, sur Arras, on n'a pas de nom, nous, en tant qu'association. Voilà, donc on envoie sur Béthune, mais on n'a qu'un nom d'un psychiatre qui diagnostique le TDAH. Et en fait, à l'âge adulte, les adultes ont mis en place eux-mêmes, de manière inconsciente, des aménagements, de manière à pallier à leurs troubles.
On parlait de la conférence, elle avait lieu donc, dans l'ensemble Bodimont.
Tout à fait.
C'était à l'attention de tout public, en fait,
oui,
de parents
oui.
qui voulaient des renseignements, de personnes qui s'intéressent. De professeurs aussi.
Oui.
Il y avait des professeurs qui posaient des questions, notamment pour savoir comment ils pouvaient adapter le contenu de leurs cours, garder l'attention. On parlait d'élastique de chaise aussi la dernière fois avec le projet En avant les papillons.
Tout à fait.
D'ailleurs, on peut avoir un petit bilan peut-être de ce projet.
Alors sur le projet En avant les papillons, on avait récolté 3512 euros. Ça nous a permis de mettre en place des ateliers pour les enfants en partenariat avec Family Inc. qui est située à Sainte-Catherine-les-Arras. Qu'on remercie d'ailleurs de nous supporter une fois par mois. Et puis ça nous permet aussi de financer une bonne partie des conférences. On fait une conférence mensuelle autour des troubles du neurodéveloppement ou autour de la scolarité avec les aménagements. Et donc il faut effectivement rémunérer les conférenciers. C'est un coût annuel d'environ 3000 euros tout de même. Au-delà du conférencier, il y a aussi la salle. Puisqu'il faut bien louer une salle pour accueillir les gens. Donc on a une dépense annuelle tout de même, atelier tout compris, au niveau de l'association, de 12 000 euros par an.
Comment tu jugerais justement l'accueil aujourd'hui, les aides amenées justement pour ces enfants à l'école ? Est-ce que les professeurs sont assez formés ? Est-ce qu'ils sont assez connaissances du trouble 10, du TDAH à l'école et comment ils peuvent aider les enfants ?
Alors aujourd'hui, nous, notre point de vue sur l'école, aujourd'hui les troubles 10 sont relativement bien connus des enseignants puisque on les diagnostique depuis bien plus longtemps que le TDAH. Il faut savoir qu'en France, le TDAH, on le diagnostique très bien depuis 7-8 ans. Avant, c'était déjà très compliqué, on disait que les enfants étaient infernaux et hop, soit ils finissaient déscolarisés, soit ils n'étaient juste pas pris en charge. Sur le TDAH, ça reste compliqué au niveau globalement de l'éducation nationale. On aimerait faire plus d'interventions au niveau des collèges, au niveau des écoles primaires, en tout cas sur la communauté urbaine, si on m'entend, tant mieux, pour permettre aux professeurs de savoir comment prendre en charge un enfant TDAH, quels aménagements peut-il mettre en place. Et aussi pour permettre plus d'inclusion dans tous les collèges. Après, on a de très bons collèges sur Arras qui font du super boulot aussi. Hein. En fait, c'est très aléatoire, ça dépend même pas des établissements, ça dépend surtout des enseignants. Des enseignants et de la réceptivité de l'enseignant à vouloir faire de l'inclusion.
Et je reviens vers toi, Louise. Comment tu as vécu le passage entre l'école et le collège ? Parce que c'est complètement différent quand même. On travaille pas pareil.
Je l'ai plutôt bien vécu. Ça n'était pas un énorme changement non plus pour moi.
Dans la façon de travailler, t'as vu des différences ou pas ?
La différence déjà, c'est qu'on change de salle à chaque heure.
Ouais.
Mais ça, après, c'est pas...
Ça te dérange pas beaucoup ?
Non, ça me dérange pas tant que ça.
Et au niveau des évaluations, peut-être en elles-mêmes, ça t'a perturbé un petit peu ou pas ?
Non.
Non, c'est la continuité des choses.
Oui, c'est ça.
Je vois maman qui fait coussi-coussa.
Bon, alors moi je dirais plus ou moins, puisque quand même en CM1, CM2, Louise elle était un peu isolée, surtout en récréation.
Mm-hmm.
Elle passait quand même beaucoup de temps à lire sur les bancs de la récréation. Moi, j'ai senti une véritable libération à son arrivée en 6e, où elle est à Saint-Vincent parfaitement épanouie, dans ce collège qui favorise, on va dire, tout de même l'inclusion.
Une dernière question, peut-être, Céline, pour clore le sujet. Avec l'association, vous recevez aussi des parents sur rendez-vous pour les aiguiller. Et vous faites aussi quelques formations, je crois.
Oui, tout à
fait. Est-ce qu'on peut en parler rapidement ?
Oui, oui, sans aucun souci. Donc en fait, on reçoit les parents soit en point info, soit au café info. Là, le prochain rendez-vous, c'est le 22 février. Donc il est possible de s'inscrire via le lien IAPLA qui se trouve dans la page Facebook « Les ailes du TDAH ». Il suffit juste de s'inscrire en ligne et de bien cliquer sur terminer pour avoir sa convocation. Concernant les formations qu'on est apte à délivrer, donc en fait, moi, je me suis formée au programme d'entraînement d'habileté parentale Barclay. C'est un programme qui est la première recommandation de la Haute Autorité de Santé depuis les nouvelles recommandations qui sont tombées fin septembre 2024. En fait, ce programme consiste à donner aux parents des outils pour mieux gérer leur enfant neuroatypique. Ça se passe donc le samedi matin de 10h à midi, une fois par mois. Sur 10 séances, donc on fait ça et on est formé depuis très peu de temps à la méthode REACT, donc c'est la résistance non violente pour gérer les enfants qui seraient TDAH top ou TDAH avec des comportements tyranniques, pour permettre aux parents de retrouver une certaine sérénité à la maison et surtout de récupérer leur autorité parentale, puisque donc dans l'esprit du comportement tyrannique, on a une inversion de l'autorité. Hein. Ça devient l'enfant qui commande et non plus le parent.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au public ?
Je voudrais juste dire qu'en ayant un TDAH, on peut faire une scolarité classique, avec des aménagements pour nous aider. Et ça serait aussi bien s'il y avait plus d'inclusion dans les écoles, pour éviter le rejet de certains enfants TDAH.
Très bien, merci à toutes les deux d'être passées dans les studios de PFM.
Merci.
Louise, bonne continuation pour l'école.
Merci.
Et peut-être à bientôt alors.
À bientôt.
À bientôt.
C'était une rencontre avec Louise et sa maman, Céline Jumel. Louise nous expliquait son quotidien avec un TDAH ou trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On a ensuite développé un peu plus la question avec Céline, qui est aussi la présidente de l'association Les Ailes du TDAH. Cette association arageoise vise à informer le public sur le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais aussi à soutenir les familles au quotidien et favoriser l'inclusion des enfants TDAH au sein de leur établissement. Pour retrouver plus d'informations sur l'association, vous investir auprès d'elle ou être accompagné par celle-ci, rendez-vous sur sa page Facebook, Les Ailes du TDAH. Une rencontre réalisée aussi avec la complicité de nos deux stagiaires de cette semaine, Cybelle et Zélie. Merci Zélie pour le petit mot de dictionnaire au début.
De rien.